Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes petits chouchous. Aujourd'hui, je vous enregistre un nouveau solo épisode pour vous parler du deuxième trimestre de grossesse. Un deuxième trimestre plus serein émotionnellement, mais tout à fait prenant quand même. Je rappelle que quand on est enceinte, on n'est pas en vacances, on pond. Et c'est pas du farniente. Ah, la matrescence, ça commence dès la grossesse et ça remue. Sur le plan de ma nuit noire de l'ombre, pour ceux qui ont écouté mon épisode sur le premier trimestre de grossesse, ça va de mieux en mieux. J'ai passé des mois très difficiles, vous le savez, mais j'ai continué d'accueillir et de m'apporter de l'amour, et je sens que ça se calme vraiment, je retrouve du sens dans ma vie, de la joie dans le moment présent, je n'ai presque plus de pensées de désespoir, et dans ces périodes de crise existentielle, de deuil, c'est vraiment, je dirais, le temps, plus ne pas être en résistance avec ce qui est, plus ressentir ces vagues d'émotions intenses qui aident à traverser cette période. Alors pas forcément plus sereinement, mais disons que ça permet d'évoluer efficacement sur la durée sans rajouter encore plus d'intensité et de perdre trop de temps dans la douleur. C'est aussi réapprendre à être bien avec soi. En fait, se recentrer sur soi pour juste se suffire au lieu de compter toujours sur l'aide extérieure. Bref, again, la force est en toi, comme toujours. Je suis vraiment en ce moment d'ailleurs dans une période où pour une fois, j'apprends à ne pas résister à tout ce qui se présente, surtout quand ce n'est pas ce que mon mental voudrait. C'est très con, mais pour les perfectionnistes, les contrôles frics, laisser faire, c'est quelque chose de très difficile. Pour moi par exemple, ça se joue sur le destin. Combien de fois j'ai essayé de forcer le destin ? Si je n'ai pas de travail qui se présente, parce que je suis freelance, je vais relancer tout le monde. Si un professionnel me laisse un mail pour me demander mes dispos et finalement ne me réécrit pas, je vais forcément lui réécrire car dans ma tête, il faut absolument que je travaille et que je gagne de l'argent ou que je ne rate pas une opportunité. Si un rendez-vous médical est trop loin de ce que veut mon mental, je vais tout faire pour trouver une date plus proche. Si mon métro ou un Uber n'avance pas alors que j'ai un rendez-vous, je pète un câble, je déteste le retard et évalue les différentes solutions possibles en remplissant mon corps de cortisol. Et ça, mon petit, c'est un bon signe de trauma. C'est un signe qui nous montre que nous n'avons pas confiance en l'univers, qu'on se sent bien seul dans le monde, hyper responsable, et qu'on doit à tout prix travailler dur et tout contrôler si l'on veut s'en sortir. Ça veut dire que l'on n'est pas dans le flot de la vie. On nage à contre-courant, car on ne laisse pas les choses se déployer naturellement. La bonne résistance, quoi. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est rarement la catastrophe. Par contre, nous, petit mental tout torturé, on a passé du temps à imaginer donner du pouvoir à la pire situation qui pourrait se produire. Mon mental me voit déjà vivre dans la rue, en n'ayant plus jamais de travail ou recalé de mon rendez-vous à jamais. Alors ça veut pas dire ne jamais faire et attendre que quelque chose arrive en restant complètement passif, rien à voir. Mais ça veut dire de laisser parler davantage son intuition, de prendre conscience des moments où je nage à contre-courant, où je suis dans la résistance, et de comprendre que là, c'est pas nécessaire d'en faire plus, ni d'obéir au mental qui fonctionne sur des programmes de peur et de vieilles blessures. Car je perds de l'énergie vitale. C'est donc prendre de la distance par rapport à ces vieux programmes mentaux internes. Ce n'est pas évident, car au début le mental peut s'agiter encore plus et te dire « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ?» nous mettant en état de détresse, mais en prenant du recul sur cette partie de l'ego. Ça fait du bien de lâcher prise, ça fatigue moins. Et faire confiance en la vie est quelque chose d'hyper régulateur pour notre système nerveux. Ça se construit en déconstruisant nos vieux programmes inconscients automatiques, en en prenant conscience évidemment et en arrêtant de les nourrir. Mais aussi, je dirais, en lisant des livres spirituels ou sur la psychologie, etc. Même quand on n'est pas là-dedans, ça ouvre vraiment l'esprit et le champ des possibles. En décembre, j'ai très peu travaillé, et comme par hasard, moi qui avais demandé une grossesse paisible et sécurisante à ce bon vieil univers, l'univers a dû se dire « on va plutôt la faire encore plus grandir celle-là, pas de pause, que nenni, il faut qu'elle bosse sur ses peurs avant l'arrivée du gamin ». J'ai beaucoup moins travaillé à partir de la moitié de l'année 2024 par rapport à d'habitude, et notamment en décembre. À tel point que j'ai commencé à vraiment baliser et à me demander si jamais j'allais avoir mes heures d'intermittente du spectacle, ce qui m'était jamais arrivé auparavant et ce qui est nécessaire pour avoir un semblant de congé maternité. Donc j'attends de voir ce que ça va être d'ailleurs. Et j'ai tellement stressé de ma situation avec des questions comme oh, « Comment je vais faire? On va plus jamais m'appeler, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir rebosser pratiquement tout de suite après. Pas de congé mat, tant pis. J'ai des formations qui arrivent en plus. Comment je vais payer tout ça? Et je vais avoir un gamin en charge, en plus ça coûte tellement cher. » Enfin bref, vous voyez bien le scénario catastrophique. À tel point que je suis évidemment tombée malade, gros rhume, mal de gorge, j'ai toussé comme une folle. Zero energy. Et encore une fois, c'était un rappel qui me disait que ce stress que je m'étais créé n'était absolument pas nécessaire et dérégulait mon système nerveux tout en ne faisant pas du bien à mon bébé. Donc en fait, ça sert à rien. Oui, mais dites ça au mental. J'avais encore anticipé négativement le futur et ça me fait perdre de l'énergie vitale, ça perturbe toutes mes cellules, ça c'est snescoot. Lesson learned, en tout cas j'essaye, hein. C'est évidemment pas facile tous les jours, hein, je vous parle de ça, mais bon, il y a des jours c'est plus difficile que d'autres. Mais ça m'a rappelé à quel point je faisais trop de catastrophisme automatiquement. Mon curseur c'est simple, hein, il pointe facilement dans cette direction. J'ai donc peu à peu décidé d'essayer d'avoir de plus en plus confiance en la vie, en conscience, d'apprendre à lâcher prise encore et toujours, car je sais que je ne sais pas tout, alors que des fois, l'univers a une bonne raison de moins te faire bosser, de t'enlever un plus un de ta vie ou de te faire virer. Mais ça, on ne le sait pas tout de suite et ça n'est pas facile à vivre, obviously. Alors j'expérimente depuis décembre en me rappelant que l'important est que je me sente sereine, pour mon bébé et pour moi. Que sera, je me concentre encore plus sur le présent, et quand mon mental commence à partir avec mille hypothèses négatives sur le futur, j'essaye d'en prendre conscience le plus possible, je fais une pause et je reviens au moment présent, car le moment présent est en fait plutôt sympa. Assez marrant de voir que le premier trimestre, le thème c'était plutôt « Nuit noire de l'âme ». Ça donne envie comme ça. Bref, donc crise existentielle avec perte de sens, comme je vous avais dit, plus de joie, plus de motivation, pensée suicidaire. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans mon solo précédent, je rappelle que je savais que c'était un programme interne qui était en train d'être joué. Et je n'allais pas abandonner ma vie, surtout que moi, qui crois aux vies antérieures, eh ben si tu te tues, va falloir revenir pour comprendre tes leçons, mon petit. Donc autant rester et faire le boulot maintenant. Et tout ça, évidemment, ça n'allait pas du tout avec le fait que j'étais enceinte et en train de créer la vie. Mais peut-être était-ce une étape nécessaire justement avant de devenir maman. Transmuter des densités, des énergies, des traumas, des programmes quoi. Ça paraît sans fin des fois, je sais. Quant au deuxième trimestre, on change de cause de stress, car oui, mon mental est câblé sur les scénarios négatifs, j'y travaille, je retrouve peu à peu du sens dans ma vie, mais il y a eu quelques vagues, disons, de catastrophisme sur le changement de ma vie de tous les jours, que devenir maman va impliquer, et ma future vie professionnelle de maman qui a besoin de travail pour nourrir son petit bout et continuer à se former. J'étais aussi facilement submergée. Coucou les hormones! J'avais l'impression que j'avais tellement de choses à faire et en même temps, j'avais pas la foi. J'avançais pas l'envie, pas l'énergie. Être enceinte était déjà tout simplement beaucoup. Un rien me submergeait, pas forcément des choses toujours en rapport avec la grossesse, hein, mais j'ai l'impression que le corps et le cerveau sont déjà tellement focalisés à essayer de gérer la grossesse et de construire correctement le petit être que penser à autre chose s'avère plus compliqué. C'est pas la priorité après tout. Donc là, dans ces cas-là, je communiquais avec mon chéri ce malaise pour qu'il puisse me soutenir psychologiquement et surtout, j'utilisais mes ressources, j'accueillais, hein, j'en parle tout le temps dans mes podcasts et mes posts Instagram, mais j'utilise et je fais des activités qui me font du bien afin de me détendre. Les ressources sont hyper importantes parce que femme enceinte détendue égale bébé détendu. En bref, faites-vous choyer, faites-vous du bien et comptez sur vous, hein, parce que si personne ne prend soin de vous, faites-le vous-même. Occupez-vous de vous plutôt que de mettre inconsciemment et constamment du stress quant à la préparation de l'accouchement. J'attends de voir hein, le thème du troisième, suspense. Ça va probablement être ras-le-bol quand est-ce qu'il sort. Le thème du deuxième trimestre m'apprend vraiment à lâcher prise. Non seulement pour ce que je viens de vous raconter, mais également pendant cette grossesse qui évolue avec tous les symptômes que cela engendre. Restons focalisés dans le jour que nous vivons, c'est déjà plus serein. Au niveau des symptômes justement, comme vous l'entendez peut-être, j'ai le nez un peu pris tout le temps. Je ne respire pas comme avant et c'est très désagréable le soir quand je suis couchée, parce que souvent la nuit je me réveille avec la bouche bien pâteuse. Faudrait voir la scène. Après avoir respiré quelques heures avec la bouche ouverte, vous savez, c'est hyper collant, très chiant, ça pue. Je cherche désespérément de l'eau dans le noir, je fais tout tomber, bref. On m'a dit que ça pouvait être lié avec l'augmentation du flux sanguin, yen et ses points. Mais à part ça, ça n'est pas trop gênant non plus. Parlons de la nausée. Hooray ! La nausée est passée ! Vers la 11e semaine, je crois, effectivement, un peu du jour au lendemain. Comme on me l'avait dit, hein, ça a été remplacé par de la Constipation. Un mot que je ne connaissais pas, quelque chose qui m'est très peu familier, et je peux vous dire que ça fait très mal au ventre, en tout cas dans mon cas. Si toi tu en souffres, I feel you. C'était probablement accentué par la supplémentation en fer, hein, qui a tendance à constiper également, mais surtout par le développement du bébé et toute la logistique de mon corps. Sacrée organisation. Mais du coup, j'étais beaucoup ballonnée, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas tiré les boyaux comme ça, ce qui ne m'a pas manqué pour être honnête. J'avais mal au ventre, bref, c'était pas confortable. J'ai donc essayé différentes choses, mais je mange déjà beaucoup, beaucoup de fibres, alors mes options étaient assez limitées. J'ai rajouté la consommation de pruneaux, bien connus, hein, des pruneaux trempés dans l'eau la veille, mais je suis pas très fan de la texture quand c'est trempé dans l'eau, alors je préfère les manger le midi sans les avoir trempés. Ce qui marche le mieux, c'est quand même l'épars, hein, que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs. Coucou la rupture de stock, tout le monde est constipé ou quoi? Et surtout, le psyllium, qui est une plante herbacée qui a un taux exceptionnel de mucilage, et ce petit s'avère être un allié redoutable contre la constipation. Je vous conseille vraiment le psyllium en poudre, parce que le psyllium pas en poudre, c'est vraiment pas glamour dans l'eau. Alors moi, ce que je faisais, hein, c'est que je me faisais des smoothies où je mettais, enfin ça dépendait, hein, mais globalement je mettais des fruits rouges, donc framboises surgelées ou des fruits des bois surgelés, merci Picard, avec de l'açaï, du tofu soyeux ou un yaourt soja, des graines de chia parfois, de la protéine en poudre, du collagène, du lait de coco et le sucre en de votre choix. Je mixe le tout avec une petite cuillère à soupe de psyllium que j'achète sur Casidomi et je bois ça. Carrément plus agréable et plus beau caca tout bien après. Donc je continue cela régulièrement, même si fort heureusement, ça va mieux globalement. À la fin de mon deuxième trimestre, c'est quand même un peu mieux. Il fallait probablement le temps que ça s'installe dans mon ventre aussi. Contrairement aux idées reçues, et parce que là encore chaque grossesse est différente en fonction des femmes, j'étais beaucoup plus fatiguée au début du deuxième trimestre qu'au premier, où là, je n'étais pas vraiment fatiguée si ce n'est de la nausée que j'avais. Ce mal de mer en fait, que je ressentais toute la journée, j'avais un manque d'énergie en mode léthargique dont je ne suis pas habituée. Mes hormones ont dû passer la troisième vitesse parce que j'étais super irritable. Je devais être tellement casse-couille. Un rien me frustrait, je montais au quart de tour. Je m'étonnais moi-même de ressentir cette agressivité et d'être aussi irritable. Je me reconnaissais pas, en fait. Coucou les hormones qui nous dominent et non seulement nous pompent notre énergie, mais en plus nous font péter un câble rapidement. Joie de la grossesse number 36. Donc là, l'arme fatale, eh ben c'est d'accepter son imperfection et de développer de la compassion pour ce que l'on traverse à ce moment. Ce n'est pas facile, vous êtes dans une telle révolution interne que vous ne pouvez pas être à fond la forme de manière linéaire. Il y a plein d'ajustements internes qui sont en train d'être faits. L'important est d'être conscient de ça, d'en parler avec votre plus sain, pour qu'il ou elle comprenne ce que vous traversez. Je pense que le terme « révolution » est vraiment juste pour refléter la grossesse, hein, bien qu'elle soit toujours différente en fonction des femmes. Là encore, le thème lâcher prise pour moi est très adapté, notamment pour l'envie de tout contrôler et de tout apprendre afin d'être prêt. En effet, à la fin du deuxième trimestre, on est dans les 6 mois de grossesse, on a bien dépassé la moitié, et ben, on peut commencer à flipper et à se dire qu'on n'y connaît rien, qu'on n'est pas assez prêt, qu'on n'a encore rien appris. Mais encore une fois, personnellement, mon but, c'est de me sentir bien et sereine, tout en accueillant les doutes et les peurs, bien sûr, tout en parlant avec mon chéri. Je fais vraiment partie des gens qui n'ont pas envie de lire tous les livres sur la maternité. Non, pas envie. J'ai juste envie de me sentir sereine. Assez de stress comme ça, voyons donc. C'est probablement dû au fait que je contrôle déjà beaucoup de choses dans ma vie, donc contrôler encore un autre thème, non, là je me protège. J'ai donc suivi ce qui me paraissait aligné et doux, et c'est ce que je vous conseillerais de faire. Ne soyez pas trop commando. Écoutez-vous et suivez ce qui vous attire. Ne vous forcez pas trop. Les réponses, elles sont en vous de toute façon. Devenir mère reste avant tout quelque chose de naturel et instinctif. À trop apprendre, on peut finir par être complètement perdu, à ne pas savoir écouter le bébé avec ses vrais besoins et à se juger quand on se sent mauvaise mère. Par contre, une BD recommandée par une amie, Coco Enso, m'a paru super attractive, les 3 tomes de Lucille Gomez, La naissance en BD. Super bien expliqué et résumé pour comprendre les accouchements naturels, physiologiques, versus les accouchements plus classiques en hôpitaux. Ça se lit vite, hein, c'est une BD, c'est mignon, c'est très visuel et clair, et ça permet de faire un choix plus conscient du type d'accouchement que l'on souhaite, tout en nous redonnant confiance, car oui, les clés se trouvent en nous. Je vous lis quelques lignes de descriptif en teaser. Ce livre explique la physiologie. Il raconte ce qui se passe lorsque les femmes accouchent sans peur et sans gestes parasites. Rendre aux femmes la connaissance intime du fonctionnement de leur corps, c'est leur rendre le pouvoir. Nous rendre notre pouvoir. Celui de se sentir forte et compétente pour donner la vie. Pas mal, non? Je vous le conseille vraiment, il est super. Un autre bouquin qui est très connecté à ce que j'aime, c'est une personne qui me suit sur Instagram qui me l'a conseillé. Je la remercie d'ailleurs. Le livre s'intitule « Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse » de Sophie Mettet. Ça porte son nom, c'est vraiment comment développer sa connexion et sa relation avec son bébé dans le ventre. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression, littéralement, de lire un bouquin que j'aurais pu écrire, tellement je partage sa vision. En attendant, c'est pas moi qui l'ai écrit, le mérite lui revient. C'était rassurant car je faisais déjà beaucoup de choses intuitivement. J'en ferai sûrement un solo épisode d'ailleurs pour vous expliquer les grands concepts. Mais globalement, je me connecte beaucoup à mon bébé, je lui parle dans ma tête, hein, on peut aussi le faire à l'oral en fonction de nos envies. Je lui chante des chansons de temps à autre, je le touche beaucoup, mais voilà, le truc c'est que je me connecte en conscience à lui régulièrement. Quand je dis en conscience, avec intention. Ça permet en plus de me faire grandir en tant que nouvelle maman et de développer ce lien de maman-enfant. Après, j'ai une amie qui n'a pas du tout fait ça pendant sa grossesse, elle n'en ressentait pas l'envie, encore une fois, écoutez-vous. Écoutez vos yes et vos no. Je vous le recommande donc, mais en tout cas, lisez ou écrivez sur le sujet qui vous intéresse vraiment, et si vous n'avez pas envie, bah vous n'avez pas envie, respectez ça. Lâchez prise, sortez du contrôle, c'est déjà beaucoup de pondre, on va pas se mettre davantage la rate au courbouillon. Que nini ! Autre point hyper important en plus du lâcher prise, je dirais, c'est de ne pas se comparer aux autres femmes enceintes. Ouh là 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 là, ça ne sert à rien, hein. On a tous des symptômes différents, on peut avoir un bidon qui se voit à 3 mois alors que le ventre d'autres femmes ne se verront pratiquement pas à 5 mois, avoir la nausée toute la journée alors que d'autres auront juste de la fatigue, on peut avoir des boutons, d'autres non, moi j'en ai plein le dos, mais écoute c'est comme ça, je vais pas me stresser davantage, je fais déjà ce que je peux, it is what it is Lord. On peut avoir des vergetures, d'autres non, avoir des super cheveux et des ongles solides, d'autres non, avoir envie de manger beaucoup, d'autres non, ce qui est mon cas d'ailleurs, j'ai pas plus faim, je mange un peu plus, je fais attention à augmenter la dose de protéines quotidiennes par exemple, je suis un peu plus laxiste, mais je ne fonce pas sur les éclairs au chocolat pour autant. Encore une fois, on est toutes différentes et ce n'est pas parce qu'on est enceinte au même moment qu'on va vivre la même chose. Impossible. Donc ne tombez pas dans le piège de la comparaison. Lâchez-vous la grappe, occupez-vous de vous, de votre transformation intérieure, prenez soin de vous, basta, c'est ça qui compte. Après, je dois avouer que quand tu n'es pas immunisé par la toxoplasmose, ça reste assez frustrant ou inquiétant les sorties. Le Toxoplasma gondii est un parasite qui vit dans la terre. Il faut donc bien laver ses légumes, faire attention à la viande, car on la retrouve sous forme de kystes dans les muscles des animaux. Il faut bien faire cuire la viande pour éviter les risques de contamination. Le chat, apparemment le seul animal à le reproduire, est contaminé lors d'un contact avec de la viande crue, en chassant des oiseaux ou des souris. A priori donc, si on a un chien d'intérieur qui ne sort jamais et qui ne mange que des croquettes, nos risques. S'il sort de temps en temps, on porte des gants, on évite de nettoyer sa litière ou on fait attention aux excréments. Et si tu le papouilles, tu te laves les mains après. Mais demande quand même à ton médecin pour être sûr et avoir les infos comme il faut. Pour la toxo, tu dois tout contrôler, hein, notamment dans les restos, pas simple parce que tu sais pas à quel point ils ont lavé tes légumes. J'ai fini par lâcher davantage prise au deuxième trimestre vs premier trimestre, où là je lavais chaque feuille d'endive et tout, trois fois, en mettant du vinaigre, d'alcool dedans, etc. Maintenant j'en mets même plus, parce que certains spécialistes pensent que le tremper dans du vinaigre ça ne sert à rien. Bon bref, c'est toujours des infos, oui, non, on sait jamais. En tout cas, j'ai lâché un peu prise, mais tu n'es quand même jamais à l'abri d'un doute ou d'une inquiétude. Et c'est vrai que la grossesse, c'est ça, c'est une source d'inquiétude. Tout peut l'être en tout cas. Donc autant essayer de s'apaiser, de faire confiance, car sinon c'est la source d'angoisse. Surtout qu'il n'y a pas que la toxoplasmose, il y a aussi la listeria, la salmonelle, etc., etc. Ah, je peux te dire que si tu veux qu'on te fasse peur, sois enceinte. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout en France hein, qu'on te demande de faire des tests chaque mois pour vérifier que tu n'as pas la toxo. En Angleterre, par exemple, aucun test. Mais vu que ça a été trouvé par des Français, c'est pas étonnant non plus. Moi qui ai un historique d'anorexique, de contrôle fric, etc. Le fait de ne plus être libre de manger ce que je veux, de ne plus faire du sport comme je veux, de me mouvoir comme je veux, bah c'est pas simple. Ça me rajoute des contraintes que je n'ai plus envie d'avoir dans ma vie, me les ayant imposées trop souvent, trop jeune. J'étais quelque peu frustrée de temps à autre, donc il faut se rappeler pourquoi on a ces contraintes. Ah oui, un petit bout qui pousse. Bon ok, ça ira pour cette fois. Je n'ai pas non plus de pulsions alimentaires, ça c'était plutôt au premier trimestre avec la nausée qui me créait ce genre de sensation. Parce que la nausée, bah, t'as toujours envie de manger des choses qui passent, donc c'est souvent des trucs neutres, pas top. La seule chose dont je suis plus attirée naturellement, c'est les fruits. J'en mange pas tant que ça, pour être honnête. Mais là, j'en ressens une envie plus forte. J'avais envie de mangue, d'ananas, de framboise, et là, en ce moment, c'est des grosses myrtilles congelées de Picard que je mange avant manger. C'est trop bon. C'est frais, ça me fait un bien fou. Donc hop, tous les jours. Au niveau du sport, personnellement, et parce que je le sentais, encore une fois, écoutons-nous, j'ai continué à en faire comme d'habitude en commençant à adapter davantage. Autant le premier trimestre, je continuais comme d'hab, autant quand le ventre poupousse, c'est plus possible ni raisonnable. J'ai donc arrêté les abdos, sniff, hein, j'adore les travailler. Mais je ne veux pas non plus finir avec une grosse diastase abdominale, hein, vous savez, c'est la séparation centrale des côtés gauche et droit des muscles des grands droits de l'abdomen. Le fameux six-pack. Et ça, on n'en veut pas. Du coup, je me suis beaucoup renseignée pour éviter ça. Après, on fait ce qu'on peut, car on va potentiellement tous l'avoir un petit peu, notamment en postpartum, c'est normal et naturel. Mais j'ai donc pas mal bossé à mobiliser le transverse, qui est hyper important quand on est enceinte. En fait, deux éléments sont importants. La respiration diaphragmatique et un bon engagement du tronc. Le fait de respirer à partir du diaphragme plutôt que de la poitrine est hyper important. Comme je suis sportive, je me suis également pas mal documentée sur le périnée. Je suis même allée voir une kiné spécialisée dans la rééducation périnéale, ce qui est pas mal quand on est sportive, car on veut éviter de faire n'importe quoi sous prétexte que l'on est accro au sport ou qu'on a un sacré niveau. Ça permet aussi de savoir si ton périnée est hyper ou hypotonique, ou normal. Si par exemple tu es du genre à faire des triathlons, même si tu as un très bon niveau, après l'accouchement, il faut faire super attention à ne pas reprendre le sport trop rapidement, même la marche trop rapidement et trop longtemps, parce que ton utérus est encore hyper large et le risque de prolapse, c'est-à-dire la descente d'organes, est fort. Elle me disait qu'elle avait pas mal de clientes dans ce cas, et c'est aussi un souci que je veux éviter. Parce que bon, la descente d'organes, moyen bof quoi. Donc j'ai acheté deux programmes d'éducation du périnée, celui d'Anna Bauer, qui est une ancienne gymnaste influenceuse, et l'application Studio Bloom, qui est vraiment pas mal car elle propose des séances de sport spécialisées dans la grossesse, plus éducation sur la respiration diaphragmatique, sur le périnée, le transverse, etc. Même si tout cela est en anglais. Après, il y a énormément de livres français, et je suis sûre des nanas françaises qui font des programmes très bien en France. Mais sachez que si vous êtes sportive, faites attention à ça. Il faut quand même réduire les poids au fur et à mesure. On le fait au ressenti, mais quand on se sent tout le temps une warrior en faisant du sport, ça peut être contre-productif et nous causer plus de soucis sur le long terme. Dans mon deuxième trimestre, je me suis donc plus focalisée sur le vélo statique, sur le renforcement musculaire des jambes, des fesses, et j'ai aussi plus développé le travail des bras avec les poids pour développer les mu-muscles, ce qui sera pratique quand le bébé grandira. Je trouve que c'est plutôt important de développer sa musculature pour ça. À côté de ça, je muscle mon périnée doucement parce que l'autre jour, j'ai contracté trop fort. Obviously, it's me. Donc je le fais toutes les semaines, deux fois par semaine environ. Je fais un exercice où je contracte le périnée pendant 10 secondes et fais une pause de 10 secondes. Je fais ça 5 fois. Ensuite, je fais 10 alternances de contraction et relâchement rapide pour finir par contracter le transverse et le périnée et ensuite tousser. Et ce 5 fois. Et oui, c'est important de bien tousser. Concernant la poussée de mon ventre, autant au début on ne voyait pas que j'étais enceinte, j'étais juste assez ballonnée, autant autour du cinquième mois, je crois qu'il a fait un gros bump. Ça faisait un peu le ventre qui grossit du jour au lendemain, et là, les choses sérieuses commencent, tu ne peux plus le cacher. Moi qui ai l'habitude de porter des pulls larges en hiver, ça y est, ça se voit quand même, c'est pour dire. Mais c'est aussi cool hein, d'à côté, parce que la phase d'entre-deux, où tu as l'impression que tu as juste pris du bide, est un peu inconfortable je trouve. Par conséquent, le ventre pousse, mais les ligaments tirent. J'ai eu pas mal de douleurs dans le bas du ventre et sur l'aine. Je vous conseille vraiment un accompagnement chez l'ostéo chaque mois, car le corps peut bénéficier d'une aide de pro pour le relâcher, le rééquilibrer. Ça m'a beaucoup soulagée. Il y a aussi des sensations bizarres parfois. Je me souviens avoir eu une grosse douleur dans le bas du ventre à l'emplacement de mon ancien utérus à sa taille normale, à 4h du mat et le lendemain. Et forcément, là, tu te poses des questions. Est-ce que ça va? Je devrais aller consulter? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Tant qu'il n'y a pas de perte de sang ou de liquide bizarre, j'essayais de me rassurer. Mais ça, c'est pas facile de juger les nouvelles sensations, c'est l'inconnu. Et l'inconnu pour mon cerveau, ça fait peur. Concernant le sexe du bébé, on a voulu le connaître. J'aimerais pas rester en suspense tout le long. J'aime bien savoir ce que je porte dans mon ventre, ça me permet de me projeter, de me préparer. Alors une médium et mon acupunctrice m'ont dit que ça allait être une fille, mais mon intuition me disait que ça allait être un garçon. J'ai d'ailleurs rêvé deux fois auparavant que j'avais un petit garçon et j'avais ressenti une sorte d'amour incroyable. Un amour vraiment inconditionnel. C'était fou, ça m'avait vraiment marqué. Et devinez qui a gagné, c'est Bibi. Comme quoi, faut se faire confiance. Je voulais un mec à la base, hein, j'adore les petits gars, mais comme les deux m'avaient dit que ce serait une fille, je m'étais préparée psychologiquement. Je m'imaginais déjà acheter plein de paillettes, des couleurs flashy, des licornes, du rose et des belles robes. Du coup, c'est raté. Enfin, je lui mettrais peut-être des paillettes quand même. Mais je suis très contente, l'homme aussi, même s'il aurait aimé avoir une fille, je pense, une petite fille à son papa. En toute confidence. En termes de crème, tous les soirs avec mon chéri, on s'est créé un petit rituel où il me masse le ventre et les nénés avec de l'huile, puis il se connecte au bébé par le toucher. J'utilise l'huile de paille, je sais pas si on dit paille ou paille skincare, bref, Pie Skincare, c'est un duo d'ailleurs qui s'appelle The Gemini Duo, anti-vergéture, grenade et graines de citrouille hyposensible, accompagné d'une crème hydratante que je mets le matin, et donc le soir c'est l'huile. J'aime beaucoup ce moment avec mon chéri parce que c'est un petit rituel de connexion entre moi, mon homme et notre bébé. Ça m'apaise, ça nous connecte et ça donne un rôle à mon chéri. Ça donne également de l'ocytocine ainsi qu'à mon bébé, car encore une fois, si la maman se sent bien, le bébé aussi. On a d'ailleurs commencé l'autonomie. Trop tôt pour en parler, on a environ 8 séances de prévues et à l'heure actuelle, j'en ai fait que 2. Mais l'autonomie, pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, c'est une méthode qui permet d'entrer en communication avec notre bébé in utero dès le 3e ou 4e mois de grossesse, il me semble, même si nous, on a commencé plus tard. Ça consiste à, je cite, « adresser une série de caresses et ou massages au bébé sur le ventre de la future maman ». Le bébé perçoit alors les caresses de la maman et du papa et choisit de répondre à sa manière, ce qui permet de créer un lien in utero. Il va ressentir une sécurité affective. Ça donne en plus un rôle pour le papa, ça lui permet de se connecter au bébé avant de le rencontrer en vrai, d'y développer sa sensibilité, mais également d'aider davantage la maman le jour J, le jour de l'accouchement, car mon cher et tendre apprend à m'aider en soutenant mon ventre par exemple, à adopter avec moi des positions confortables qui vont apaiser la douleur, notamment pendant l'accouchement et les contractions. En fait, il va être plus acteur et va pouvoir m'aider. Avec l'apto, tu apprends aussi à guider ton enfant vers la voie de sortie le jour J, donc je trouve que c'est plutôt pratique. Mais je vous en dirai plus au troisième trimestre. Pour revenir à ce que j'ai rajouté dans mon hygiène de vie, autour du 4e mois, mais plus sérieusement à partir du 5e mois, c'est pas top glamour, mais ma médecin m'a conseillé de porter des bas de contention, sachant que pour autant je ne présente aucun risque, je n'ai pas de troubles veineux, pas de risque de phlébite ou de thrombose, mes chevilles ne gonflent pas, mais pour autant, ils apportent une compression des jambes pour favoriser le retour veineux et une bonne circulation sanguine. Mon médecin me disait qu'on avait plus de sang dans les veines quand on était enceinte et que du coup ça pouvait les abîmer un peu. Je simplifie pas mal là, mais en gros c'est ça. D'où le fait que porter des bas de contention était utile pour protéger la santé de nos petites veines, mais aussi d'éviter les vergetures et la pharmacienne m'a dit en toute confidence « Pour éviter la cellulite, c'est pas mal non plus ». J'ai essayé des bas qui montent jusqu'aux cuisses, ça finissait par me gratter ou me gêner, même si je trouve ça plutôt sexy, je dois dire. Je n'ai pas pu essayer les collants de contention car j'ai les chevilles trop fines et dans la pharmacie où j'allais, cela n'existait pas en taille 0. J'ai également essayé les chaussettes de contention sans bout pour libérer les petits orteils. Sûrement pratique l'été, mais alors j'ai détesté, pas du tout aimé. C'était très désagréable, ça serrait encore plus ou ça glissait, ça se plaçait mal. Donc du coup, je prends les classiques chaussettes de contention que je mets toute la journée. À la fin de la journée, j'en ai marre, mais globalement, on s'y fait. Au niveau de la connexion avec mon bébé, j'avoue que le deuxième trimestre est encore mieux pour ça, parce que j'ai commencé à sentir ses petits coups de pied à la 17e semaine, ce qui est apparemment assez tôt, mais encore une fois, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Certaines vont le ressentir tôt, d'autres plutôt tard. Don't worry. Et c'est vrai que c'est très chouchou. Tu prends encore plus conscience qu'un petit être est locataire de ton utérus. Quand il te kick, tu peux en profiter pour lui parler, lui mettre la main là où il tape pour te connecter à lui, qu'il sente ta caresse, ta chaleur. Et ça crée du lien. C'est vraiment cool. Le mien a l'air assez actif. Enfin, entre moi et son papa, ça n'est pas étonnant, mais des fois, il fait la java. C'est vraiment ça que je préfère de toute la grossesse. Autant le reste m'ennuie plutôt, pas mon truc, sans surprise, c'est contraignant and co. Autant ces petits moments-là sont très beaux. C'est marrant d'ailleurs, parce que j'ai une copine qui me disait qu'elle adorait être enceinte. Elle dit « je me sentais femme, je me sentais belle, je pourrais être enceinte tout le temps ». Pour moi, c'est cauchemar, même si globalement ça se passe très bien, j'en ai conscience. Mais vivement que ça soit finito et que le petit alien soit sorti de ma petite chatte en chou-fleur, je te le dis. J'ai hâte de le rencontrer quand même, parce que pour l'instant, même si je cultive déjà le lien avec lui, il reste un peu subtil. Il est caché sous la peau, les tissus, les fascias et l'utérus, c'est bizarre. C'est marrant cette frontière si fine finalement. C'est assez fou. Au niveau des fringues, j'ai l'impression d'être Boule dans Bully Bill, la célèbre BD du jeune garçon avec son chien que je lisais quand j'étais petite. Nostalgie ! C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'habiller pareil tout le temps. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? En même temps, j'ai pas envie de m'acheter 20 fringues pour 9 mois, ça va pas me servir longtemps. Pour moi, ça ne vaut pas le coup, mais faites-vous plaisir si vous en ressentez le besoin. Je pense que l'été, c'est quand même mieux. Ce n'est pas pour autant que je fais pas d'efforts, j'ai acheté 2-3 robes pour les célébrations, anniv, Noël & Co, des combis car c'est pas mal quand on sort avec les potes, et sinon le mieux du mieux que j'ai trouvé, plutôt que des jeans, ce sont les leggings Calzedonia. Super confortable, taille bien, moule bien, je me sens pas du tout oppressée dedans contrairement aux autres jeans avec le bidou, je recommande. Je n'ai presque pas acheté de pulls de grossesse parce que je porte l'hiver des pulls larges. Mais vraiment, je pense quand même que c'est beaucoup plus simple de bien s'habiller l'été parce que t'as plein de robes mignonnes de femmes enceintes. Mais moi, j'aurais déjà accouché, donc too bad. Un petit truc qui me fait rire, c'est que je ne suis pas le genre de personne qui fait des nudes et qui l'envoie à son mec. Je veux pas que ça se retrouve je ne sais où. C'est pas trop mon trip, après chacun son truc. Par contre, en étant enceinte, j'aime beaucoup faire des petits nudes doux que j'envoie à mon mec pour lui montrer mon ventre de femme enceinte parce que je trouve ça assez beau finalement en photo, ce petit ventre tout rond. Je m'amuse toute seule à lui envoyer au boulot, il n'y a rien de compromettant en plus et ça lui fait plaisir. Petit tips de couple et de complicité. Parlons maintenant des nuits.
Oh my god.
Eh bien, c'est pas foufou, hein. Je me réveillais souvent, surtout à la fin de mon deuxième trimestre, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'avais plutôt l'impression de faire plein de siestes. Après, ce n'est pas pour autant que j'étais très fatiguée, mais je dors pas pareil qu'avant. C'est plus saccadé. Et là, avec le troisième trimestre qui arrive, c'est de pire en pire, car avec le gros bide, tu as du mal à te tourner la nuit, ça tire vite le ventre, il faut faire attention à ne pas trop tirer pour la diastase notamment, on ne veut pas le ventre en forme de cône. Donc c'est toute une orga quand tu te retournes, sachant que je me retourne de plus en plus, je bouge beaucoup, peut-être aussi parce que le bébé bouge et je me réveille, je sais pas. Au niveau des compléments alimentaires, je prends pas mal de compléments, hein. Toujours la grossesse fer de TerraScience, mais j'ai rajouté un autre complément de fer car ce n'était pas assez. Je fais partie des gens qui ont des bonnes carences de fer et c'est hyper important de contrer cela. Le bébé commence à pomper beaucoup plus, je prends toujours de la spiruline, de la vitamine D, du magnésium, de l'iode, de l'oméga 3, et j'ai rajouté du calcium sous forme de lithotam, de la sérola pour la vitamine C. Vers le sixième mois, il faut normalement faire un test pour le diabète en prenant une dose de sucre conséquente, ce que je n'ai pas voulu faire. Enfin, je savais qu'on pouvait trouver une autre solution. Du coup, avec ma gynéco, elle m'a fait une ordonnance pour faire une prise de sang à jeun et post-prandial, c'est-à-dire après un bon petit déjeuner, et RAS, ce qui est cool car c'est vrai que c'est pas sympa quand tu es enceinte et que tu as du diabète de grossesse. Courageuse les filles, courageuse je vous le dis. En tout cas, je reste persuadée qu'il est intéressant d'être supplémentée et suivie par un spécialiste pendant la grossesse, pour éviter d'avoir encore plus de carences, notamment pendant l'allaitement. Votre bébé puise tellement en vous, ne vous sacrifiez pas pour autant. Je suis suivie par ma nutrithérapeute, je fais chaque trimestre des examens sanguins un petit peu plus poussés pour voir où j'en suis. Faites-vous accompagner, je pense que c'est vraiment intéressant. Et en plus, ça peut peut-être éviter aussi les dépressions postpartum quand t'es complètement carencée de partout. Bref, ça vous aide. Quant à mon chien, autant j'ai l'impression qu'elle sentait un petit peu au début, autant là, je pense qu'elle s'en branle la nouille, dirais-je, de manière classe. C'est pratique de la porter, hein, car je la cale sur mon ventre. Mais j'ai hâte de voir, n'empêche, comment elle va se comporter avec mon petit gars. J'en ferai des stories pour les curieuses. Voilà, voilà, mes chouchous, c'est la fin de cet épisode sur le deuxième trimestre. Vivement le troisième, ça veut dire que ça sera fait. Je vous fais un constat authentique où je raconte mes inquiétudes, mes doutes, et je me plains quelque peu, car ça reste pas facile, mais encore une fois, je reste consciente que j'ai de la chance qu'il n'y ait pas d'anormalité chez le bébé, etc., que tout se passe globalement bien. D'ailleurs, l'écho du premier trimestre reste la plus intéressante selon les spécialistes, hein, parce que tu vois tout le corps, alors que plus il grossit, plus c'est dur d'apercevoir quoi que ce soit. Mais les échos sont des beaux moments aussi. Savourer, c'est assez fort. Tu peux le voir bâiller ou sucer son pouce, bouger, faire des kicks, avoir le hoquet. C'est très choupinou. Moi qui, à la base, ne suis pas du tout bébé, mais plutôt chien, soyons honnêtes, quand c'est le tien, ça n'est quand même pas pareil. Laissons-nous surprendre par la vie qui se crée en nous, car ça reste une sacrée aventure. Gros bisous mes loulous, n'hésitez pas à ajouter une note sur Spotify si vous avez aimé ce podcast, car si vous n'avez pas aimé, bah, ne faites pas. Je prends tellement de temps à faire mes épisodes de podcast que je préfère de l'encouragement que du blâme. Ça doit pouvoir se comprendre, n'a-t-il pas ? Vous pouvez aussi prendre quelques minutes pour me faire un avis sur iTunes Podcast sur l'ordinateur. J'adore lire vos avis, ça me fait du bien et ça permet de faire connaître davantage mon podcast, ça me motive. N'hésitez pas non plus à le partager, je sais que vous savez, mais en France, c'est franchement difficile de faire monter un podcast. C'est pas comme les Américains avec leurs millions d'écoutes par semaine dans leurs 6 grands pays, avec leur team de producteurs et ingé son, etc. Ici, il n'y a que moi-même. Prenez bien soin de vous, encore plus si vous êtes enceinte, et écrivez-moi un MP si vous voulez me partager des choses. Bisous !